Voici Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. Pas la cloche, mais le bouclier. Fermeture des frontières aux pays extérieurs à l'Union. Fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires dès ce soir minuit. La France s'offre un sursis. Le gouvernement fait un pari. Conseil de défense surprise hier soir. Pas de parole présidentielle, pas de confinement non plus. Le but, gagner du temps, voir si on peut encore éviter la troisième vague et le troisième confinement. On verra que ce pari est signé Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, une victoire plus que symbolique pour les mineurs de Lorraine, le préjudice d'anxiété reconnu hier. Et puis les sports, le hand, défaite des Bleus aux portes de la finale du Mondial et de l'extrême de la glisse à fond la caisse dans Esprit Sport.
Et à 8h20 avec nos invités ce matin, question sur notre santé mentale en temps de crise avec deux psychiatres pour en parler, Aurélia Schneider et Serge Effèze.
France Inter.
L'Élysée accélère, conseil de défense improvisé donc hier soir après une semaine de messages alarmistes. Le Premier ministre Jean Castex prend le micro.
La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données. Mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons au regard des chiffres des derniers jours que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter.
Alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, évoquait, souvenez-vous, encore en début de semaine, un confinement très serré, des vacances scolaires prolongées, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, que Jean Castex lui-même défendait pas plus tard qu'hier après-midi une ligne dure face aux partenaires sociaux. C'est donc Emmanuel Macron qui, au dernier moment, a fait reculer la machine, son credo, ne pas céder à la panique, encore moins aux injonctions. Pas de confinement, donc, laisser de l'oxygène aux Français, Maxence Lambrecq.
Le maître des horloges, c'est toujours lui. Le conseil scientifique n'a pas pris le pouvoir, se réjouit un pilier de la Macronie. Qu'importe donc la pression des médecins cette semaine, Emmanuel Macron veut encore donner une chance aux Français. Les projections alarmistes restent théoriques, justifie un conseiller. C'est la fin de l'omnipotence du scientifique, se réjouit un ministre. Le président prend donc son risque, il fait confiance aux Français, plaide l'Élysée. À vous de jouer pour garder votre liberté. Les alertes des psychiatres, des élus, des ministres de l'éducation, de l'économie ont donc pesé. Emmanuel Macron s'est méfié de l'acceptabilité d'un confinement préventif alors que les chiffres ne s'emballent pas. Une majorité de Français s'y opposait dans les sondages. Certains commerçants étaient prêts à désobéir. Il va maintenant laisser le gouvernement affronter la colère du monde médical en espérant gagner son pari, voir la courbe se stabiliser en fin de semaine prochaine. On fait tout pour éviter le confinement, a lancé Emmanuel Macron lors du Conseil de défense. Y concéder serait donc perçu comme un échec.
Gagner du temps, celui de peut-être laisser passer la troisième vague, d'éviter le confinement, le pari est risqué. Il ne fait pas l'unanimité. Tout ça pour ça, déplore l'ensemble de la classe politique. Mais c'est bien, il faut oser, dit de son côté le directeur médical de la cellule Covid de l'hôpital de Garches, Benjamin Davido.
C'est un bon début, une bonne étape dans une politique de santé qui s'inscrit sur la durée et qui essaye à tout prix d'éviter de répéter la partition comme l'année dernière avec des confinements successifs. C'est une tentative pour innover et probablement trouver un compromis entre un confinement qui peut être très dur à la fois économiquement, psychologiquement et très clairement pour éviter une reprise de l'épidémie due aux variants. En revanche, de mon point de vue, je pense qu'il aurait fallu compléter ces mesures. On sait que les vacances vont arriver rapidement. Il faut, à mon sens, interdire, limiter les voyages interrégionaux. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est capital dans la gestion de la transmission de cet agent infectieux.
Benjamin Davido de l'hôpital de Garches, joint par Hélène Chevalier. Pas d'interdiction donc de circuler pour l'instant de région à région. En revanche, si la situation est mieux maîtrisée que chez nos voisins, elle est toujours préoccupante au vu de la circulation des variants, dit Jean Castex. 23 000 contaminations, 3 000 patients en réanimation en 24 heures. Et la France se barricade à son tour. Tous ceux qui se trouvent aujourd'hui dans un pays extérieur à l'Union européenne ne pourront plus entrer en France à partir de ce soir minuit. Idem pour les sorties vers l'étranger hors Schengen. Le Royaume-Uni est sur la liste et interdit aussi de se rendre dans les dom-tom. Les nouvelles restrictions ne s'arrêtent pas là. Test PCR de moins de 72 heures désormais obligatoire pour tous les voyageurs à destination ou en provenance d'un pays européen, y compris pour ceux qui circulent en train ou en voiture, exemptés toujours les travailleurs transfrontaliers et les routiers. Autre mesure, les grands centres commerciaux non alimentaires vont devoir fermer leurs portes dès ce soir sans préavis et pour une durée indéterminée. 396 centres commerciaux commerciaux au total, 25 000 magasins concernés. Mais de qui parle-t-on au juste? C'est encore un peu flou pour Michael Decoicon, président de l'association des commerçants de Mondeville 2, près de Caen.
Comme tout le monde, on découvre sur cet accompli, puisque c'était pas prévu. Après, c'est de la stupéfaction, puisque là, pour avoir pris la température auprès du directeur du centre commercial, personne n'était au courant, on a été interrogé, on va dire, mais comme depuis le début sur toute cette situation. Et effectivement, qu'est-ce qu'un centre non alimentaire? Est-ce que c'est un centre à ciel ouvert, un centre fermé? Après Mondeville 2, donc on est plus de 20 000 mètres carrés, mais on a un centre alimentaire. Donc est-ce que nous, les commerçants, au sein de la galerie, on va avoir le droit d'ouvrir? C'est une grande surprise.
Une réunion est prévue ce midi à Bercy avec les fédérations de commerce pour préciser les choses. Et puis les jauges seront resserrées dans toutes les grandes surfaces. Là encore, on en saura plus dans la journée. Le gouvernement a également prévu de renforcer les contrôles pour faire respecter le couvre-feu, renforcer aussi le télétravail. Concertation lundi avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités.
En France, le préjudice d'anxiété a été reconnu pour les mineurs de Lorraine.
Sur le front des vaccins, voici le troisième, donc autorisé par Bruxelles. Après une semaine de tension, l'Agence européenne du médicament a donné hier soir son feu vert à l'anglo-suédoise AstraZeneca. La France dira en début de semaine si elle l'autorise à son tour, et y compris pour les plus de 65 ans, car les tests sur les plus âgés ne seraient pas tous concluants. Entre les questions sur la fiabilité de son vaccin, les retards contestés de livraison, accusé un temps même de garder des doses pour les Britanniques, AstraZeneca était comme la bête noire de l'Europe ces derniers jours. La hache de guerre est enterrée, mais peu profondément. AstraZeneca a donc voulu montrer patte blanche hier à Londres. Correspondance Richard Place.
J'attends qu'ils nous livrent les 400 millions de doses comme prévu. Au moment d'officialiser la mise sur le marché européen de son vaccin, Ursula von der Leyen remet la pression sur AstraZeneca. La firme pharmaceutique avait déjà fait part de ses difficultés d'approvisionnement. Son PDG les a confirmées hier soir. Il annonce donc une livraison de 3 millions de doses dans les prochains jours et pour le moment un total de 31 millions pour l'Europe. Mais Pascal Sorio précise que sa firme fait le maximum pour améliorer ce chiffre. Au passage, il répond aussi aux doutes émis sur l'efficacité de son vaccin pour les plus de 65 ans.
Les données que nous avons chez les patients âgés est le même que chez les patients plus jeunes. Notre opinion, c'est que le vaccin doit marcher chez les gens plus âgés, mais on a pour le moment un nombre de cas qui a été recruté qui est limité. Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que le vaccin n'est pas efficace chez les gens plus âgés.
L'Agence européenne des médicaments autorise le vaccin pour les plus de 18 ans sans aucune autre restriction d'âge. En Allemagne, la commission de vaccination a remis un rapport au ministère de la Santé précisant que les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l'efficacité du vaccin au-delà de 65 ans. Londres, Richard Place, France Inter.
Produire des vaccins en masse, c'est l'embouteillage logistique dans les usines, retard de livraison pour tous les vaccins. Conséquence, partout en Europe, les campagnes de vaccination ralentissent ou bien même s'arrêtent complètement. C'est le cas en Andalousie, en France, dans trois régions, les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté. Les premières injections vont carrément être arrêtées afin de garder les doses disponibles pour ceux qui doivent recevoir la deuxième piqûre. Et puis l'Europe, par ailleurs, assure désormais surveiller de très près les exportations de vaccins hors de l'Union, vérifier qu'on ne lui prend pas ses doses. On entre dans l'ère du chacun pour soi, déplore hier soir l'OMS.
Ouais, je vous parlais des mineurs de Lorraine, c'était pour vous dire que le préjudice d'anxiété a été reconnu en leur faveur.
Après toute une carrière, le nez dans le charbon, la poussière et les produits chimiques, et après 8 ans de marathon judiciaire, 726 anciens mineurs des Houillères du bassin de Lorraine ont décroché une victoire hier. Le préjudice d'anxiété donc, reconnu par la cour d'appel de Douai. Après les travailleurs de l'amiante, les mineurs plus qu'un symbole, une jurisprudence. Cécile Soulet de France Bleu Nord.
La cour d'appel de Douai a décidé d'indemniser 726 anciens mineurs lorrains, mais sa décision servira les autres travailleurs exposés à des produits dangereux et qui craignent de tomber malades. L'un des avocats des mineurs, Jean-Paul Tessonnière.
Le préjudice anxiété permet d'intervenir dès que la faute a été commise, sans attendre que les maladies interviennent avec parfois quelques générations de décalage. Avec ce type d'instrument, on dispose de moyens d'intervention.
Par exemple, un salarié de l'industrie chimique pourra demander l'amélioration de ses conditions de travail dès à présent, en se basant sur cette jurisprudence, ajoute maître Cédric de Romanet.
L'employeur réfléchira deux fois avant de laisser ses salariés travailler dans ces conditions, dans la mesure où la sanction désormais peut être immédiate, alors que lorsque sanctions survenaient dans le cadre des pathologies qui étaient apparues, c'était souvent 10, 20 ou 30 ans après l'exposition.
En revanche, les 10 à 20 000 autres anciens mineurs de Lorraine qui n'ont pas entamé de procédure ne pourront pas être reconnus au titre du préjudice d'anxiété, car il y a aujourd'hui prescription.
L'homme soupçonné d'avoir tué jeudi dans la Drôme et en Ardèche une conseillère Pôle emploi et une DRH est également soupçonné dans un autre meurtre. Une cadre des ressources humaines retrouvée morte dans sa voiture dans le Haut-Rhin, c'était deux jours plus tôt, mardi dernier. Ce matin, on apprend que si le suspect reste muet dans les locaux du commissariat de Valence, l'ADN parle pour lui. Un lien vient d'être officiellement établi avec cette fois une tentative d'homicide. Un DRH encore qui s'est fait tirer dessus à Wattwiller ce même mardi. Il n'a pas été touché. Après le passage à tabac il y a 15 jours dans le quartier Beaugrenelle à Paris de Youri, cette adolescente 15 ans toujours hospitalisée, eh bien l'enquête avance. 9 jeunes hommes, dont 8 mineurs, déférés devant un juge hier. Une information judiciaire sera ouverte dans la journée. Enfin, le ciel se déchaîne, crue, inondation, vague submersion, avalanche, 24 départements en alerte orange ce matin. On vous dira tout dans le point complet sur la météo à la fin de ce journal.
Exactement, pour l'instant à 8h11, on parle de sport.
Arrêté net aux portes de la finale mondiale de hand, les Bleus s'inclinent en demi face à la Suède 32-26. Les Français ont toujours bien du mal à briser le plafond de verre. Mais cette fois, Xavier Monferrand, pas de quoi rougir.
Bien sûr, c'est la déception qui domine. Comment pourrait-il en être autrement avec une équipe qui nous a habitués aux strass et aux paillettes? Mais au début du mois, juste avant de s'envoler pour l'Égypte, il n'y avait pas grand monde pour croire en ces Bleus. Alors, c'est pas si mal, relativise le pivot Ludovic Fabregas au micro de Beansport.
C'est dommage parce qu'on avait fait un super parcours et ça s'arrête net, c'est notre première défaite. Mais on est quand même aussi fiers d'être arrivés jusque-là parce qu'au début, on nous l'aurait dit, on aurait signé de suite, je pense.
Car il y a un an, tout juste, ces mêmes Bleus sortaient la tête basse dès le premier tour de l'Euro, ce qui avait provoqué un séisme bien inhabituel dans une maison handball qui respire le succès. Didier Dinard débarqué, remplacé par son adjoint Guillaume Gilles. Finalement, ce séjour en Égypte aura quand même marqué le retour des Français dans le Gotha du hand mondial pour le capitaine Michael Guigou.
Si on reprend quand même tout ce qui se passe depuis un an dans l'équipe, en arrivé là où on en est aujourd'hui, quand même dans le dernier carré, en ayant battu la Norvège, en ayant battu le Portugal, on peut quand même être fier de ce qu'on a fait. À nous de se servir de tout ça pour que ce groupe connaisse finale et des titres, bien sûr.
Bon, pour les finales et les titres, on l'a compris, il faudra être patient. Mais il y a le bronze à aller chercher demain, une 21e médaille internationale.
Le bronze contre l'Espagne demain après-midi pour les Bleus. On passe à notre esprit sport, direction le Colorado, avec le rendez-vous qu'attendent tous les passionnés de sport extrême, les X Games d'hiver ce week-end à Aspen. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Vous avez choisi de nous parler du français Antoine Adelys qui va s'aligner sur l'épreuve de Big Air, l'une des compétitions les plus spectaculaires.
Antoine Adelys, invité à cette compétition mythique avec en plus un statut de favori grâce à ses dernières performances en Coupe du Monde. Les X Games aux États-Unis le font rêver depuis qu'il a 12 ans, tant l'événement est dans la démesure. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, il y a eu plus de 100 000 spectateurs en 3 jours, des concerts géants en parallèle des épreuves sportives, des billets vendus jusqu'à l'équivalent de 1 500 €. Sauf que cette année, avec le coronavirus, évidemment, tout va se disputer à huis clos, avec des retransmissions télévisées uniquement. Pas de quoi entamer la motivation du français.
Ça va être des X Games très particuliers, mais il faut pas oublier que ça restera les mêmes athlètes au départ, avec les mêmes ambitions et les mêmes infrastructures. Donc la course risque d'être extrêmement intensif pour nous. Et je vais essayer de mettre ça un petit peu de côté. De toute façon, cette année, j'aurais pas vraiment le choix, d'ailleurs.
Et son épreuve, elle est programmée la nuit prochaine.
Donc, c'est celle de Big Air, hein, son épreuve. Qu'est-ce que c'est?
C'est une des disciplines du ski freestyle. Alors, un mélange de ski et de gymnastique avec une bonne dose d'adrénaline du début à la fin. Concrètement, on s'élance d'un tremplin, on prend de la vitesse, plus de 70 km/h. Le principe, c'est d'enchaîner des figures dans les airs sur une distance de 20 à 25 mètres, à 4 ou 5 mètres de hauteur. Ces figures, elles sont notées par des juges. Et chaque skieur doit amener sa touche personnelle. Antoine Adelys, par exemple, a un type de saut très technique qu'il est le seul à réaliser. Lorsqu'il y a du public, l'atmosphère elle est très spéciale sur ce genre d'épreuve. Profond silence dans les airs, explosion d'enthousiasme par de milliers de spectateurs à la réception. Plusieurs skieurs évoquent même la sensation d'être comme des rockstars sur une scène à l'arrivée. Le ski Big Air, c'est aussi la discipline qui monte en puissance. Elle fera son entrée aux Jeux Olympiques l'an prochain à Pékin. Pékin. Et Antoine Adelis, évidemment, qui a déjà participé à des Jeux, mais en slopestyle, espère être de cet événement et ramener, pourquoi pas, une des premières médailles tricolores dans la spécialité.
Ouais, et puis tiens, maintenant que je suis devenue fan de ski big air grâce à vous, Laetitia Bernard, merci. J'en profite pour vous dire que l'épreuve chez les dames vient d'être remportée par une Suisse, Mathilde Grémaud, médaille d'or. Ben, on attendra un peu pour le cocorico.
Laetitia Bernard,
l'année prochaine.
Dans le journal d'Hélène Roussel.